Jesus Christus.
Le pape invite communicants et journalistes à courir le risque de l'espérance. Son message pour la Journée mondiale des communications sociales a été dévoilé ce vendredi. Message publié alors que se poursuit le jubilé des journalistes et communicants. Premier jubilé thématique de l'année sainte, nous revenons en détail sur ce message dès le début de ce journal. L'Arabie Saoudite fait son retour politique au Liban. Le chef de la diplomatie du royaume s'est rendu à Beyrouth pour afficher son soutien aux nouvelles autorités. Une visite qui est une première depuis près de 15 ans dans le pays du Cèdre. Dans ce journal, nous parlerons aussi des premières expulsions de migrants des États-Unis par la nouvelle administration Trump. Et puis nous prendrons aussi la direction de l'Irak où les mariages d'enfants dès 9 ans pourraient désormais bientôt avoir lieu.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, en ce 24 janvier, fête de Saint François de Sales, docteur de l'Église et patron des communicants, le message du pape pour la Journée mondiale des communications sociales a donc été publié tout à l'heure. Un message dans lequel François invite les communicants à rendre raison avec douceur de l'espérance qui est en nous. Dans un monde où les discours radicaux et de haine prolifèrent, le Saint-Père livre sa vision d'une communication capable de faire de nous les compagnons de route de nombreuses personnes sans illusion ni peur. C'est un message, Xavier Sartre, qui s'inscrit pleinement dans le jubilé de l'espérance, qui est une invitation claire aux communicants, journalistes et communicateurs à travailler, refuser la logique de la peur, du désespoir, des préjugés ou encore du ressentiment, conjurer aussi le fanatisme, la haine et courir, donc je le disais en titre, le risque de l'espérance, Xavier.
Un risque en effet, Olivier, car il y a d'abord ce constat, celui d'une époque marquée par la désinformation et la polarisation, la concentration et le contrôle des données de l'information par quelques centres de pouvoir. La communication aujourd'hui utilise la parole comme une lame pour envoyer des messages destinés à exciter, à provoquer, à blesser, déplore le pape. Sans oublier les algorithmes qui nous orientent selon les logiques du marché et modifient notre perception de la réalité. Alors pour François, nous ne pouvons pas accepter cette logique, car réduire la réalité à des slogans ne peut jamais apporter rien de bon. D'où la nécessité de désarmer la communication, de la purifier de toute agressivité, et pour les communicants de devenir des communicateurs d'espérance. D'où les rêves de François d'une communication capable de faire de nous les compagnons de route de nombreux frères et sœurs, de raviver en eux l'espérance en ces temps troublés, de parler au cœur, de susciter non pas des réactions passionnées de fermeture et de colère, mais des attitudes d'ouverture, d'amitié, de mettre en valeur la beauté et l'espérance, même dans les situations apparemment les plus désespérées, de susciter l'engagement, l'empathie, l'intérêt pour les autres, de reconnaître la dignité de tout être humain et à prendre soin ensemble de notre maison commune.
Et le pape Xavier qui adresse par conséquent des conseils aux journalistes et aux communicants.
Oui, il veut un communicateur qui permet à son auditoire de prendre part, d'être proche, de trouver le meilleur d'eux-mêmes et d'entrer avec ses attitudes dans les histoires qui leur sont raconter. Cette communication que le pape appelle de ses voeux peut aider à tisser la communion, à nous faire sentir moins seuls, à redécouvrir l'importance de marcher ensemble. Il faut donc que ces communicants soient doux, qu'ils n'oublient pas le visage de l'autre, qu'ils parlent au cœur de chacun, qu'ils ne laissent pas les réactions instinctives guider leur communication, qui doit savoir au contraire guérir les blessures de notre humanité. Ces communicants doivent aussi devenir témoins et promoteurs d'une communication non hostile, diffusant une culture de l'attention, construisant des ponts et transperçant les murs visibles et invisibles de notre époque. Et ils doivent être aussi, Olivier, des conteurs des histoires d'espérance en prenant à cœur notre destin commun et en écrivant ensemble l'histoire de notre avenir.
Xavier Sartre, et plus d'informations sur ce message à retrouver en détail sur notre site vaticannews.va. Toujours au sommaire de l'actualité vaticane, le pape a nommé un nouveau préfet à la tête du dicastère pour le dialogue interreligieux. C'est le cardinal indien George Jacob Kouvakad, responsable des voyages apostoliques du pape, qui a été choisi par François, originaire de la région du Kerala, de 51 ans. Il succède au cardinal Miguel Ángel Ayuso, décédé le 25 novembre dernier. Le nouveau préfet conserve sa charge de superviser les voyages du souverain pontife. C'est le grand retour de l'Arabie Saoudite au Liban. Depuis hier, le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Faisal Ben Farhad, est en visite dans le pays du Sahel. Cela faisait près de 15 ans qu'une telle visite n'avait pas eu lieu. Et il s'est dit optimiste quant à la situation dans le pays après avoir rencontré les dirigeants libanais à Beyrouth et remis au président Joseph Aoun une invitation à se rendre à Riyad. Le chef de la diplomatie du royaume qui a insisté sur l'importance des réformes pour permettre au Liban de bénéficier de l'aide de la communauté internationale. À Beyrouth, Paul Ralifé.
Faisal Ben Farhan est le plus haut responsable saoudien à visiter le Liban en 15 ans. Ses entretiens à Beyrouth à la tête d'une importante délégation marquent le retour du royaume au pays du cèdre après la dégradation des relations bilatérales en raison de l'influence iranienne et du soutien apporté par le Hezbollah aux rebelles yéménites, à l'opposition au Bahreïn et aux milices chiites en Irak. La venue du prince Ben Farhan à Beyrouth officialise le comeback saoudien qui s'est manifesté début janvier dans le rôle décisif joué par le royaume dans l'élection de Joseph Aoun à la présidence et la désignation de Nawaf Salam au poste de premier ministre. Les relations entre le Liban et l'Arabie saoudite s'étaient gravement détériorées à partir de 2017, après la séquestration à Riyad du premier ministre, alors en exercice, Saad Hariri. L'engagement nouveau du royaume aux côtés du Liban signifie que cette page est désormais tournée, mais pas d'une manière inconditionnelle. Pour aider financièrement le Liban, l'Arabie saoudite exige des réformes profondes et la non-ingérence du Hezbollah dans les affaires des pays du Golfe. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Faisal Ben Farhan qui poursuit sa tournée à Damas ce vendredi, une ville qui accueille également un haut représentant du Vatican, le cardinal Guggerotti, préfet du dicastère pour les églises orientales, qui vient apporter le soutien du pape aux communautés chrétiennes locales, mais aussi ses vœux de reconstruction d'un pays où chacun apporte sa contribution. Des méthodes de guerre à Jénine, les Nations Unies dénoncent une nouvelle fois les méthodes brutales de l'armée israélienne en Cisjordanie. Et depuis mardi, Tsahal mène dans la ville de Jénine une vaste opération qui a fait au moins 12 morts et déplacer des centaines de civils. Le Hamas remettra cet après-midi la liste des 4 otages qui doivent être libérés demain. Deuxième série de libérations au titre de l'accord de trêve avec Israël. Après des mois de débats intenses et des levées de boucliers au sein de la société civile, le Parlement irakien a adopté des amendements à la loi sur le statut des individus. Concrètement, il pourrait désormais permettre le mariage des enfants dès l'âge de 9 ans. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
Le nouveau texte conserve les dispositions de la loi de 1959, à savoir l'âge légal du mariage fixé à 18 ans et au minimum 15 ans, avec l'assentiment des tuteurs légaux et d'un juge. Toutefois, les amendements à la loi sur le statut de l'individu permettraient aux religieux de statuer sur les mariages en fonction de leur interprétation de la loi islamique. Parmi les soutiens de ces amendements, des musulmans chiites partisans de la juridiction al-Jafari qui rabaisse l'âge légal du mariage des jeunes filles à 9 ans. L'imam chiite Nour al-Sadi, chercheur en sciences islamiques et à l'origine de ces propositions d'amendements, affirme qu'à 9 ans, je cite, « la fille peut être mariée à condition que le corps soit mature ». Nous savons aussi, précise-t-il, que, médicalement parlant, le corps ne peut être mature à cet âge. Là est la raison pour laquelle la loi islamique offre un cadre plus large au mariage, dit-il. Le religieux assure que cette loi protège la famille. Selon l'UNICEF, 28% des filles en Irak sont mariées avant l'âge de 18 ans. 22% des mariages non enregistrés concernent des filles de moins de 14 ans. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
Donald Trump met ses menaces à exécution. 538 premiers migrants illégaux ont été expulsés ces dernières heures des États-Unis, conformément à la volonté du nouveau président. L'opération de déportation de masse la plus importante de l'histoire est en cours, s'est félicité Blanche sur les réseaux sociaux. Au Mexique, on se prépare à un afflux massif de personnes expulsées. Des centres d'accueil de fortune ont été montés à la va-vite, non loin de la frontière. L'évêque de la ville frontière d'El Paso aux États-Unis est président du comité pour l'émigration de la conférence épiscopale américaine dénonce des généralisations abusives pour désigner un groupe désignant tous les migrants ou des sans-papiers comme des criminels. Et puis sur un tout autre sujet, l'Organisation mondiale de la santé revient sur la décision de l'administration Trump de se retirer de l'agence onusienne, l'OMS, qui protège les États-Unis aussi des menaces et des épidémies, rappelle l'agence, l'OMS, donc ce vendredi depuis Genève. Enfin, les combats dans l'est de la République démocratique du Congo ne cessent pas. Les violences dans la région de Goma Goma, qui oppose notamment la milice du M23 soutenue par le Rwanda à l'armée congolaise, ont provoqué le déplacement de plus de 400 000 personnes depuis le début du mois de janvier. Toute attaque contre Goma aurait des conséquences catastrophiques, alerte le HCR. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes. Ce sera ce soir à 18h avec Alexandra Sirgan. Excellent après-midi à tous.